Voilà, alors donc on continue courageusement. À Maurice Laetitia, cette fois-ci, je vais terminer le troisième chapitre, le quatrième chapitre, pardon, qui concerne le dialogue et après un amour passionné, etc. Donc, c'est les numéros 136 à 164. Et cet après-midi, donc, ça sera le chapitre 5 des numéros 166 à 198. Voilà. Alors, donc, je vais commencer par le dialogue. Alors, vous pourrez le relire, bien sûr, je ne peux pas tout dire. Je ne dis que quelques petites choses hein, dans cet enseignement. Après, il y a beaucoup de choses assez pratiques dans ce que dit le pape François, donc vous n'hésiterez pas à y retourner. Donc, au numéro 136, une première chose que le pape dit, c'est que le dialogue suppose un apprentissage long et difficile. Et de fait, je pense que ça, c'est. Au départ, on n'a pas. Il y a peut-être certains qui pensent que c'est un peu spontané le dialogue à partir du moment où on s'aime, on peut dialoguer. Mais en fait, c'est pas du tout quelque chose de spontané. Ça suppose vraiment de. C'est quelque chose qui se travaille, le dialogue. Je pense en communauté, oui, pas seulement en communauté, hein, mais en couple, le dialogue, ça suppose déjà d'être. Le dialogue suppose de prendre un peu sur soi. Hein, parce que si on veut écouter l'autre, ben ça suppose de se taire pour laisser l'autre parler, ça suppose et d'essayer de rester calme, même si l'autre peut-être dit des choses qui commencent à nous faire bondir. Voilà, essayer de vraiment être ouvert à l'autre, c'est pas si simple que ça. Ça demande vraiment un travail. Donc, déjà dans le numéro 136, donc le pape nous dit, voilà, ça suppose un apprentissage long et difficile. Donc c'est normal que ça soit pas quelque chose de spontané. Le dialogue, vous pourriez avoir des sources diverses et variées. Il y a une source que j'aime bien, même si ça concerne pas vraiment le dialogue conjugal en tant que tel. C'est le pape Paul VI dans son encyclique Ecclesiam Suam du 6 août 1964, dans les numéros 75 à 80 et quelques, 85 au moins, il parle du dialogue et des différentes. Des facteurs dans le dialogue. Mais il parle du dialogue sous une perspective un peu particulière, il parle du dialogue de salut. Alors, il parle d'abord de Dieu qui est entré en dialogue avec nous. Alors, mais c'est intéressant parce que ça déplace un peu l'attention et du coup, ça nous aide à mieux comprendre peut-être aussi pour le dialogue entre nous. Alors, d'abord, le dialogue de Dieu avec nous, ça part de sa charité. Comme il ne peut pas se résoudre à ce qu'on soit séparé de lui, alors c'est lui qui prend l'initiative du dialogue, sinon il aurait pu attendre longtemps. Et bon, c'est quelquefois un peu la même chose en couple ou en communauté, donc de faire le premier pas. Après, le dialogue de salut ne se mesura pas au mérite de ceux à qui il était adressé. C'est Saint Paul qui dit, alors que nous étions encore pécheurs, alors voilà. Mais, bon. Alors, vous pourrez reprendre tout ce que je ne vais pas trop détailler ici, mais bon, Ecclésiam Suam. N'hésitez pas à lire, c'est un beau document de Paul VI. Et après, alors là, je vais peut-être m'arrêter un tout petit peu. Il donne quatre qualités dans le dialogue. Alors, encore une fois, c'est le dialogue dans la mission de l'Église pour parler de Dieu. Mais quelque part, ça pourrait s'appliquer aussi au dialogue entre nous. La première qualité, c'est la clarté. Le dialogue suppose et exige qu'on se comprenne. Et je pense que ça vaut aussi dans le dialogue entre nous, parce que les mots ne peuvent pas forcément dire la même chose. Voilà. Et ça suppose un effort aussi d'essayer de se comprendre. Mais du coup, d'abord, ça suppose d'essayer de travailler cette clarté en nous. Qu'est-ce que je veux dire, en fait, quand je veux m'exprimer? Parce que souvent, il y a les mots qu'on dit, mais derrière, il y a d'autres choses qu'on voudrait dire, et voilà. Alors, mais donc apprendre la clarté. Une autre caractéristique que le pape Paul VI donne du dialogue, c'est la douceur. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Le dialogue n'est pas orgueilleux, il n'est pas piquant, il n'est pas offensant. Son autorité lui vient de l'intérieur, de la vérité qu'il expose, de la charité qu'il répand, de l'exemple qu'il propose. Il n'est pas commandement et ne procède pas de façon impérieuse. Il est pacifique, il évite les manières violentes, il est patient, il est généreux. Alors ça, vous pouvez très bien l'appliquer au dialogue conjugal, ou nous en communauté. Hein, donc la douceur, une deuxième qualité, caractère du dialogue. Troisième caractère du dialogue, la confiance. La confiance tant dans la vertu de sa propre parole que dans la capacité d'accueil de l'interlocuteur. Cette confiance provoque les confidences et l'amitié. Elle lie entre eux les esprits dans une mutuelle adhésion à un bien qui exclut toute fin égoïste. Et la quatrième qualité du dialogue, la prudence pédagogique. Alors, encore une fois, c'est le dialogue de salut, comme l'appelle Paul VI, mais ça peut s'appliquer aussi assez bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette prudence pédagogique? Elle tient grand compte des conditions psychologiques et morales de l'auditeur, selon qu'il s'agit d'un enfant, d'un homme sans culture ou sans préparation, ou défiant ou hostile. Elle cherche aussi à connaître la sensibilité de l'autre et à se modifier raisonnablement soi-même et à changer sa présentation pour ne pas lui être déplaisant et incompréhensible. Donc une prudence pédagogique. Voilà, alors vous pourrez relire ces passages de Paul VI, je vous les trouvais sur Internet sans difficulté, ou dans les bibliothèques si vous voulez, mais Paul VI a souvent une pensée assez claire, alors c'est vrai qu'il a une manière un peu plus française quelque part de penser, donc on s'y retrouve assez volontiers. Mais justement aussi, il ne s'est pas contenté de parler du dialogue. Paul VI a beaucoup œuvré pour le dialogue, il l'a mis en œuvre, ce qu'il a. Voilà, alors j'arrive au numéro 138. Tiens, j'ai sauté le numéro 135 quelque part, mais bon, c'est pas grave. Numéro 138, voilà ce qui est dit. Cultiver l'habitude d'accorder une réelle importance à l'autre. Donc c'est le pape François qui parle. Il s'agit de valoriser sa personne, de reconnaître qu'il a le droit d'exister, de penser de manière autonome et d'être heureux. Il est possible de reconnaître la vérité de l'autre, l'importance de ses préoccupations les plus profondes et l'arrière-plan de ce qu'il dit, y compris au-delà des paroles agressives. Pour y parvenir, il faut essayer de se mettre à sa place et interpréter ce qu'il y a au fond de son cœur, déceler ce qui le passionne et prendre cette passion comme point de départ pour approfondir le dialogue. Alors ça, c'est aussi de... Il a le droit aussi de penser différemment de moi, l'autre. Donc, c'est vrai que le dialogue, c'est vraiment accepter que l'autre soit différent. Hein. Sinon, si on veut tout ramener à nous-mêmes, le dialogue sera un peu compliqué. Là, il y a aussi cette indication intéressante du pape de déceler ce qu'il passionne, essayer de vibrer à ce qui le passionne. Bon, on n'est pas obligé. S'il est passionné par le foot, bon, peut-être que le foot, c'est pas notre passion, mais quand même, essayer de s'intéresser, de rentrer un petit peu dans ses désirs, et essayer de se mettre à sa place, essayer de... Ça, on voit bien un exercice de décentrement qu'il y a dans le dialogue, pour pas être centré sur soi-même, mais pour s'ouvrir à l'autre. Dans le numéro 139, le pape parle il faut de l'ouverture d'esprit pour ne pas s'enfermer avec obsession dans quelques idées. Il faut de la souplesse. L'unité à laquelle il faut aspirer n'est pas uniformité, mais une unité dans la diversité. C'est une idée qui revient souvent chez le pape François, qui ne cherche pas l'uniformité. Hein. Ça, c'est clair que il est assez attentif pour que chacun vive aussi selon sa culture, en tout cas ce qu'il y a de bon dans sa culture. Il y a un couple à Compiègne qui faisait des week-ends décidés en couple. Je ne sais pas si certains ou certaines l'ont fait. Alors, ils avaient proposé quelque chose un jour. Je crois qu'ils avaient fait une présentation aux équipes Notre-Dame. Et ils avaient parlé, c'était assez intéressant, de la double écoute dans le dialogue. Donc, écouter ce que dit l'autre, le contenu intelligible de ce que dit l'autre, mais écouter aussi ce que ça produit en moi. Parce que selon ce que dit l'autre, je ne reste pas forcément de glace. Il y a des choses qui peuvent me passionner, des choses qui peuvent me barber, mais des choses qui peuvent m'énerver, ou au contraire me réjouir. Et du coup, c'est intéressant d'écouter à la fois les deux choses. Alors, il proposait de faire un exercice, vous pourriez peut-être le faire, essayer de voir. Alors, premier exercice. Pendant que le premier conjoint s'exprime, le second écoute sans intervenir et écoute son propre ressenti. Donc, on écoute deux fois, à deux niveaux. Et on n'intervient pas, on ne coupe pas la parole. Après, c'est vice-versa. Là, le deuxième parle et le premier écoute. Et après, troisième étape, le premier conjoint dit son ressenti lorsqu'il a entendu son conjoint s'exprimer. Ce que ça a produit en lui. Et inversement, le deuxième le dit. Et après, seulement commence l'échange. Du coup, alors ce qui est important, c'est de tenir compte de ce qu'on ressent. Alors après, on n'est pas obligé d'agir selon son ressenti, bien sûr. Il ne faut pas être esclave de son ressenti. Mais ça indique quand même quelque chose qui se passe en moi. Et donc, c'est intéressant. Au numéro 140, le pape dit qu'il faut des gestes de prévenance envers l'autre et des marques d'affection. L'amour surpasse les pires barrières. Quand nous aimons quelqu'un ou quand nous nous sentons aimés par lui, nous arrivons à mieux comprendre ce qu'il veut exprimer et à nous faire comprendre. Il faut surmonter la fragilité qui nous porte à avoir peur de l'autre comme s'il était un concurrent. Je trouve que c'est très intéressant, on voit, je pense en communauté aussi, je pense à un frère en particulier que je nommerai pas bien sûr, vous connaissez certainement pas d'ailleurs. Quelquefois sa première réaction, le premier jet, ça peut être un peu agressif. Mais ça l'est en particulier quand ils ne sont peut-être pas très à l'aise ou voilà. Et du coup, il dit les choses. Après, bon, si ce jour-là, on est bien disposé, qu'on a la patience de laisser passer la première vague et puis qu'on essaie de faire la part des choses et d'écouter ce qu'il veut dire au-delà de la formulation qui n'est pas forcément très plaisante. Mais du coup, après, il est apaisé et après, on peut vraiment dialoguer. Mais il faut laisser passer la première vague un peu. Voilà. Alors du coup, je trouve que c'est... Mais pour rejoindre ce que dit le pape dans ce paragraphe, c'est vrai que quand on se sent aimé, on est beaucoup plus à l'aise pour dire que quand on sent une tension, on est maladroit, on devient maladroit pour parler, et du coup, c'est pas les bons mots qui nous viennent. Et puis, alors ça, c'est aussi... On pourrait parler aussi de tout un climat de fond derrière le dialogue. Au-delà du dialogue à un instant précis, c'est un arrière-fond. Si on se sent à l'aise avec la personne, ben, voilà, on sait que même si nos mots sont un peu approximatifs, bon, il comprendra, il ne s'arrêtera pas à ça et puis on pourra aller un peu plus loin. Mais tandis que quand on est comme... On imagine la situation de Jésus qui est... où on voit les pharisiens qui les pillent, qui guettent ses paroles, qui veulent s'emparer d'une de ses paroles. Ben à ce moment-là, on n'est pas très à l'aise pour dialoguer, pour s'exprimer librement, sauf si vraiment on est bon. Mais voilà. Alors du coup, voilà ce que dit le pape, il faut des gestes de prévenance envers l'autre et des marques d'affection. Et alors du coup, le dialogue est comme précédé aussi par ce climat de fond où on sait que l'autre est bienveillant à notre égard. Et du coup, voilà, c'est plus facile d'entrer en dialogue. Et le pape parle aussi de la peur de l'autre. Si on a peur de l'autre, voilà, c'est... Et ensuite... Il est très important de fonder sa propre sécurité sur des options profondes, des convictions ou des valeurs, et non pas sur le fait de l'emporter dans la discussion ou qu'on nous donne raison. De ce point de vue-là, je crois que beaucoup est apprécié de pouvoir dialoguer avec Benoît XVI, qui est une grande intelligence. Et du coup, il avait toujours cette écoute d'essayer de comprendre ce que dit l'autre. Mais il revient toujours à la vérité. Ce n'est pas une opposition entre les personnes, c'est rechercher la vérité au-delà de ce qui peut la relation entre les personnes. Au numéro 141, le pape dit quelque chose d'intéressant aussi. Finalement, reconnaissons que pour que le dialogue en vaille la peine, il faut avoir quelque chose à dire. Et ceci demande une richesse intérieure qui soit alimentée par la lecture, la réflexion personnelle, la prière et l'ouverture à la société. Autrement, les conversations deviennent ennuyeuses et inconsistantes. Quand chacun des conjoints ne se cultive pas et quand il n'existe pas une variété de relations avec d'autres personnes, la vie familiale devient un cercle fermé et le dialogue s'appauvrit. Alors c'est une... Bon, c'est un aspect aussi intéressant de ce que dit le pape, donc aussi s'informer, se cultiver, etc., pour avoir des choses à apprendre à l'autre ou à avoir un aliment pour le dialogue, on pourrait dire. Et le pape insiste toujours sur l'ouverture à l'extérieur pour ne pas être en cercle fermé. Et puis... Si vous voulez, vous pouvez regarder une catéchèse du pape François. C'est le 22 octobre 2016, donc ce n'est pas très très vieux, où il parle de s'écouter mutuellement, s'expliquer avec douceur, sans aboyer. Chers frères et sœurs, dialoguer aide les personnes à humaniser les relations et à surmonter les incompréhensions. Je peux peut-être vous reprendre quelques éléments que je développe souvent pendant les week-ends famille. Il y a toujours un temps de dialogue à la fin, et du coup, je donne quelques éléments. Alors, si ça vous intéresse, je peux vous les redonner en bref, sans. Alors, il y aurait 6 points. D'abord, être convaincu que le dialogue est nécessaire. Parce que on voit bien que quand les couples ne vont pas bien, ben, il y a toujours un problème de dialogue. Et dans une communauté, c'est pareil. Hein, parce que le dialogue, c'est vraiment ce qui nous permet de nous rapprocher au-delà de nos différences. Alors après, il y a plusieurs lieux de dialogue. Alors c'est un peu, je vous fais le parallèle avec la vie communautaire, mais il y a différents lieux de dialogue. On dialogue pas de la même façon, vous dialoguez pas de la même façon quand c'est à table avec les enfants. Ou quand c'est quand vous êtes seulement tous les deux avec votre mari, ou quand c'est un moment où vous savez que vous ne serez pas dérangé, etc. Donc, pour que ça soit plus concret, je vous dis ce qui se passe en communauté. Il y a le dialogue à table. Voilà, on parle de tout et de rien, etc. Mais s'il y a un sujet un peu sensible, a priori. La consigne, c'est plutôt de ne pas trop l'aborder à table, mais plutôt l'aborder en réunion de communauté. Alors, il y a un cadre, c'est tous les lundis matins, on se retrouve, et du coup, on sait qu'on a du temps pour en parler, on sait que, voilà, on est entre nous, et du coup, on peut vraiment, quand il y a ce cadre, un certain cadre aide à dialoguer à un autre niveau. Et puis, dans notre vie communautaire, il y a encore un autre cadre du dialogue. Alors, c'est le dialogue du prieur avec chacun des frères. Alors, à peu près tous les 2 mois, donc je rencontre chacun des frères et puis on a un dialogue. Alors, c'est un dialogue aussi qui est préparé, quelque part. Ce n'est pas non plus spontané dans le sens, j'essaie d'y penser avant, le frère aussi, et puis de voir... Voilà ce qui serait important, le sujet qui serait important d'aborder. Et alors, le fait de le préparer, ça permet aussi de délaguer des choses qui n'ont pas forcément grande importance et de se concentrer sur quelque chose qui nous paraît avoir de l'importance au moment qu'on est en train de vivre. Du coup, le fait que ça soit, encore une fois, que ça soit un peu institutionnel, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Parce qu'on ne commence pas à dialoguer le jour où il y a un problème. On dialogue parce que voilà, c'est important de dialoguer. Sinon, sitôt qu'on arrête de dialoguer, on voit bien que la distance se prend et puis on ne se comprend pas. Et puis voilà, sur certaines choses. Donc ça, c'est... Bon, ce premier point, vraiment, le dialogue est quelque chose de vraiment important. Le deuxième point, c'est... J'ai déjà commencé un peu sur ce deuxième point, mais les circonstances du dialogue. Alors, dans les équipes Notre-Dame, il y a le devoir de s'asseoir, par exemple. Alors, il y a quelque chose d'un petit peu formel, quelque part, au départ, mais Donc, c'est une fois par mois à peu près. Et du coup, on peut s'y préparer, on peut être dans des conditions où on ne sera pas dérangé au bout de 2 minutes, parce que si on sait qu'on risque d'être dérangé dans 2 minutes après, on n'aborde pas les choses les plus importantes. On a besoin de temps pour ce qui est important, hein. On est tous pareils. Donc j'insiste un tout petit peu sur cet aspect que pour le dialogue, pour les choses les plus profondes qui nous touchent, qui nous tiennent le plus à cœur, il faut avoir du temps devant soi. Si on n'a pas de temps devant soi, on ne les abordera pas ou pas correctement. Voilà. Et que ce soit un lieu enfin, agréable où voilà, on soit apaisé. Si c'est un lieu. Ça passe par des choses toutes bêtes. Une fois, on avait une réunion, c'était dans un bureau, c'était le bazar partout. Il y a des gens, ça les dérange peut-être pas trop, mais d'autres gens, simplement d'être dans un lieu avec plein de bazar, ça met intérieurement, ça ne met pas dans des bonnes conditions. Ou alors, si vous grelottez, peut-être que, je ne sais pas. Mais d'avoir des circonstances qui soient plutôt favorables, c'est important. Donc, l'importance du dialogue, les circonstances du dialogue à soigner. Troisième élément, je trouve qui est intéressant, c'est la manière de se positionner. Parce qu'on peut se positionner l'un en face de l'autre, de chaque côté du filet, puis on se renvoie la balle, c'est une partie de ping-pong. Ou alors on se positionne l'un côté de l'autre, sous le regard de Dieu. C'est très différent dans la manière de se positionner. Parce que du coup, ce qu'on recherche, c'est que le couple en ressorte grandi, que la communauté en sorte grandi, mais pas que l'un ait raison par rapport à l'autre. Du coup, il y a une manière de se positionner qui est importante, d'en avoir conscience, du coup, ça nous aide à... Notre but, ce n'est pas d'avoir raison sur l'autre. Si on part comme ça, ben, le dialogue il risque d'être un peu compliqué. Mais ce qu'on recherche, c'est que le couple en sorte grandi, et puis ça passe aussi par la croissance de l'un et de l'autre. Mais voilà. Quatrième élément aussi qui aide pour le dialogue, c'est, on pourrait dire, les présupposés du dialogue. Alors, avec le pape François, on l'a évoqué un tout petit peu, cette affection qu'on manifeste, ce dont je vous ai sans doute déjà parlé, des signes de reconnaissance au quotidien, des petites paroles d'encouragement, qui fait qu'on n'est transparent l'un à l'autre, mais voilà, on voit que l'autre est là et on lui manifeste qu'on est content qu'il est là, à côté de nous. Du coup, ça, c'est tous les présupposés du dialogue qui fait que quand on arrive, voilà, on ne débarque pas... comme ça, de façon un peu froide, mais on sait toute cette bienveillance qu'on cultive au quotidien. Alors ça, c'est vraiment des présupposés essentiels pour le dialogue. Du coup, voilà, on démarre beaucoup plus facilement. Sixième point. Cinquième. Ah, vous écoutez bien. C'est bien. J'allais sauter le cinquième, qui est pourtant essentiel, il faut écouter. quand on ne se sent pas écouté, ou quand l'autre ne se sent pas écouté, il a tendance à parler encore plus fort, à crier ou à se manifester d'une manière un peu pas forcément adéquate. Mais du coup, ça se travaille, l'écoute. Et au-delà d'écouter les paroles, c'est écouter la personne, d'être attentif à la personne qui est devant nous. Si on fait autre chose en même temps, même si on entend le son de la voix, ben, on ne se sent pas écouté. On a besoin c'est plus que d'accueillir notre parole, c'est de nous accueillir nous. Hein, écouter quelqu'un, c'est ça. Et du coup, dans la manière de. Si on regarde et puis qu'on a l'impression de s'intéresser à autre chose pendant ce temps-là, on ne se sent pas très écouté, quoi. Hein, donc voilà. Donc je ne développe pas davantage. Et puis, il faut parler aussi. Il faut écouter, mais il faut aussi parler. Parce que il y a des choses, il ne faut pas s'attendre. Il ne faut pas imaginer que l'autre va tout deviner. Ou que, voilà. Il y a beaucoup de non-dits, quelquefois, dans les familles. C'est une peste, les non-dits. Ça empoisonne beaucoup de relations. C'est important de dire les choses. Alors, on ne sait pas toujours très bien les dire, bon, mais il faut les dire à un moment ou à un autre. C'est comme le camembert, hein, vous savez, c'est classique. Hein. Vous laissez un camembert au fond d'un placard, vous n'en parlez pas, hein, surtout vous n'en parlez pas, mais tout le monde sait qu'il y a quelque chose dans le placard. Surtout au fil des semaines, au fil du temps. Mais dans les familles, c'est pareil. Il y a des choses, on le dit, personne n'en parle, mais tout le monde, les enfants sentent bien qu'il y a un problème, ou voilà, les gens sentent bien qu'il y a un problème, mais pudiquement, il y a un voile dessus, c'est au fond d'un placard, et c'est important de dire les choses. Alors, encore une fois, c'est important d'avoir je reviens un peu en arrière, mais des temps pour dire les choses, sinon, ben, la vie passe vite, et puis c'est vrai que, et ce qui est, c'est quand même essentiel, votre relation conjugale, donc c'est tout à fait essentiel. Alors après, dans la manière de dire les choses, bon, on peut toujours améliorer notre manière de dire les choses, mettre un emballage qui soit quand même un peu plus plaisant que des petites piques, etc. Je me rends compte, je reviens un petit peu en arrière par rapport à la rencontre que j'ai tous les 2 mois avec les frères. Je trouve que c'est assez précieux parce que ça m'évite d'une tentation de faire des petites remarques comme ça au quotidien. Mais les petites remarques au quotidien, souvent, ça abîme plus la relation que ça n'arrange les choses. Et il vaut mieux prendre un peu de recul et puis voir... des choses, bon, c'est normal qu'on ait des manières de faire différentes et voilà. Mais après, essayer de voir les choses un peu plus profondément. Parce que les petites remarques, les petites piques au quotidien, ça abîme plus la relation qu'autre chose. Et ça, il vaut mieux s'en abstenir. Mais ce qui ne veut pas dire de laisser le camembert au fond du placard. Hein. Ça veut dire qu'il faut l'aborder, mais on l'aborde d'une manière un peu plus large et puis en essayant de comprendre l'autre et voilà. Donc dans la manière de dire, on a beaucoup à travailler pour rejoindre ce que disait le pape François dans le premier numéro. C'est pas dans la spontanéité, ça se travaille la manière de dire les choses. Aussi pour prendre conscience, parce que c'est pas forcément conscient, quand on dit quelque chose, quelquefois l'autre il se sent un petit peu acculé dans un coin, il n'a qu'une... Qu'une possibilité, c'est de nous dire oui ou sinon on fait une crise. Mais non, dire les choses, c'est laisser aussi l'autre sa liberté, laisser à l'autre sa liberté. Donc il y a une manière de dire qu'on a toujours à travailler. Ou quand le pape François parle de la correction fraternelle, il dit aussi la correction fraternelle sans charité, sans délicatesse, c'est comme une opération sans anesthésie. Alors, l'autre va réagir si on commence à taillader dans le vif, comme ça. Voilà, donc toute la manière de dire a une grande importance. Voilà, donc ça, c'était sur le dialogue, ça me semblait important, parce que c'est une place importante dans notre vie. Maintenant, je vais aborder les numéros 142 à beaucoup plus loin. 142 à 157. Alors je vais un peu survoler pour ne pas vous retenir trop longtemps. Mais... D'abord, il y parle d'un amour passionné au numéro 142. Ce n'est pas pour rien qu'un amour sans plaisir ni passion n'est pas suffisant pour symboliser l'union du cœur humain avec Dieu. C'est intéressant, c'est pourquoi... Donc, il met en valeur dans cette partie, justement, la passion, la dimension passionnelle aussi dans l'amour des conjoints. Et C'est vrai que quand on parle d'amour, une image qu'on a, c'est quelque chose d'assez passionnel. Un peu. Alors, l'amour n'est pas que ça, mais ce n'est pas par hasard quand même que l'image de l'amour, l'image de l'amour de Dieu qui est employée dans l'Écriture, c'est l'image de l'amour d'un époux pour son épouse. Ça veut dire une certaine force, une passion qui nous porte hors de nous-mêmes. Mais en même temps, c'est important de se rendre compte que l'amour passionnel, on ne peut pas rester au niveau d'un amour passionnel. Il faut passer de l'amour passion à l'amour action, à l'amour choisi. Alors, je n'ai pas noté ici, mais c'est... Comment il s'appelle ? Gary Chapman parle des trois différences, je crois, entre l'amour de la passionnel et l'amour plus délibéré, l'amour plus au niveau de la volonté. Il dit l'amour passionnel, bon, on le subit, voilà, ça nous prend, et puis voilà. Et puis, on ne fait pas trop d'efforts dans l'amour passionnel, voilà. Et ça a quelque chose d'un petit peu aveugle et c'est pas durable. L'amour passionnel, bon, il y a un cycle où ça marche, et puis au bout de 2-3 ans, voilà. Mais du coup, c'est. Mais pas négliger non plus cet aspect l'amour passion. Au numéro 143-145. Le pape à la fois insiste encore sur cet amour de la passion, mais en même temps relativise. Il voit que le plaisir n'est pas ultime. Croire que nous sommes bons seulement parce que nous sentons des choses est une terrible erreur. Il y a des personnes qui se sentent capables d'un grand amour seulement parce qu'elles ont un grand besoin d'affection, mais elles ne savent pas lutter pour le bonheur des autres et vivent enfermées dans leurs propres désirs. Dans ce cas, les sentiments distraient des grandes valeurs et cachent un égocentrisme qui ne permet pas d'avoir une vie de famille saine et heureuse. Il rappelle cette réflexion de saint Thomas d'Aquin, mais qu'on retrouve à beaucoup d'endroits. Expérimenter une émotion n'est pas une chose moralement bonne ou mauvaise en soi. La passion en soi, c'est ni bon ni mauvais, moralement parlant. C'est après, qu'est-ce que j'en fais ? Parce qu'il y a des passions qui peuvent nous emmener dans le décor, bien sûr. Si je ressens de l'affection pour mon voisin, ben c'est pas pour autant que je dois aller plus loin. Voilà, ça indique quelque chose qui se passe dans ma sensibilité, mais voilà, après, ce qui est important, c'est qu'est-ce que j'en fais. Ou si je ressens de la colère, ben on n'est pas obligé de sauter au cou et d'égorger. Donc après, c'est toute la... Comment gérer nos émotions. Mais avant d'aborder ça, le pape parle de l'égocentrisme. Et alors, je m'arrête un petit peu parce que c'est quelque chose quand même assez présent dans notre société où on a tendance quand même un peu à être un peu égocentrique. Ou on pourrait dire aussi un peu narcissique, même si c'est un peu différent, mais un peu centré sur nous-mêmes. De ce point de vue-là, Benoît XVI, dans son encyclique Deus Caritas Est, parlait beaucoup de l'amour, justement, qui est extase. Hein, dans cette encyclique, il parle beaucoup de l'éros et de l'agapé. Mais voilà ce qu'il dit, entre autres. L'amour est extase, mais extase non pas dans le sens d'un moment d'ivresse, mais extase comme chemin, comme exode permanent, allant du « je enfermé sur lui-même » vers sa libération dans le don de soi. Donc, de parler d'un exode de soi-même, alors qui est une antithèse de l'égocentrisme, où justement on recherche ce qui nous fait du bien, etc. Mais l'amour mûr ne nous enferme pas en nous-mêmes, au contraire, il nous conduit vers l'autre. Le pape François avait repris cette idée, cette citation de Benoît XVI dans son message pour les vocations. Il disait « La vocation, c'est justement un appel à sortir de soi. Croire veut dire se laisser soi-même, sortir du confort et de la rigidité du moi pour centrer notre vie en Jésus-Christ. Abandonner comme Abraham sa propre terre en se mettant en chemin avec confiance, sachant que Dieu indiquera la route vers la nouvelle terre. » Donc de sortir de soi-même, d'un exode de nous-mêmes. Alors, je reviens un petit peu aux émotions. Les émotions ne sont pas, encore une fois, bonnes ou mauvaises en tant que telles. Après, ça dépend ce qu'on en fait. Alors, les médias jouent beaucoup sur les émotions, quelquefois pour faire passer des lois. Voilà. Donc, quelquefois, du coup, ça nous emmène complètement dans le décor parce qu'on voit plus le bien. Par exemple, pour l'avortement, ça c'est. On voit que la détresse de la femme, mais on voit pas, on ne demande pas son avis au bébé qu'elle porte en elle. On voit seulement sous un angle. Alors du coup, on fait... voilà. Mais quelquefois, ça a du bon. Vous vous rappelez tous de l'image de ce petit garçon qui était ramassé sur la plage. Alors là, ça a déclenché un... Mais ils ont joué sur une émotion, mais c'était bon en ce cas-là. Et dans notre vie spirituelle, quelquefois, c'est bon d'avoir des chocs. Ça nous touche dans les émotions et du coup, ça nous fait bouger un petit peu parce que ça, on reste pas indifférent. Ça brise un peu notre indifférence. Donc, l'émotion n'est pas forcément mauvaise en tant que telle, mais on voit quelquefois on agit trop sous le coup de l'émotion. Alors, sitôt qu'il y a quelque chose, on veut promulguer une loi. Mais c'est pas forcément adéquat de réagir dans la précipitation et de faire quelque chose qui compliquera encore un peu davantage les choses. Alors, d'écouter cette émotion, c'est bien, mais après, ça suppose après de qu'est-ce que je fais de cette émotion, qu'est-ce qui est bon, et ça, derrière l'émotion, ça suppose une réflexion. S'il n'y a pas de réflexion derrière l'émotion, bon, on nous conduit comme des moutons, et puis. Et il y a besoin d'une réflexion derrière. Et dans la société actuelle, les médias jouent quand même beaucoup sur les émotions et quelquefois nous conduisent là où ils voudraient bien qu'on aille. Alors, comment gérer ces émotions? Bon, elles sont là. Mais on pourrait prendre l'image des marins. Ben, ils prennent le vent comme il vient. Et puis après, ils essaient d'aller où ils veulent aller en servant du vent, et puis voilà. Mais les émotions, voilà, on peut les canaliser, mais on ne peut pas les enfermer en tant que telles. Au numéro 147 et 148, il parle d'un mot qu'on n'aime pas beaucoup, un processus qui inclut des renoncements. Alors, je suis allé voir sur Internet, renoncement, ascèse. Alors, je ne suis pas tombé sur des choses chrétiennes au point de départ. Hein. C'était des choses plutôt l'hindouisme, etc. Alors, et pourtant, c'est quelque chose qui est très présent dans l'histoire chrétienne. Alors, quelquefois avec peut-être des excès hein, dans certaines formes d'ascèse, mais c'est quand même quelque chose de très important. Alors, il y a saint Paul qui prend l'image du sportif. Tout cela, je le fais. Alors, c'est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, versets 23 et suivants. Tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors, vous courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner, et nous pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Mais je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave pour éviter qu'après avoir proclamé l'Évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Donc l'ascèse comme un entraînement. Et un entraînement, justement, pour une forme de maîtrise de soi. Donc, on est dans ce chapitre qui est dédié à l'éros, à la passion. Et alors, dans le domaine de la sexualité, c'est clair qu'il y a tout un combat aussi pour apprendre une certaine maîtrise de soi-même. C'est pas gagné d'avance. Hein, vous savez la différence entre la pureté et la chasteté. Le petit bébé, il est... Bon, il n'est pas du tout chaste. Bon, il n'a pas de désir, donc c'est plus facile à gérer. Vous mettez un petit bébé garçon à côté d'un petit bébé fille, il ne se passe pas des horreurs. Voilà, mais bon, mais il n'est pas chaste pour autant, le bébé. La chasteté, ça s'acquiert, hein, comme toutes les vertus, comme voilà, ça s'apprend. Et comme pour parler une langue étrangère, ben, ce n'est pas du premier coup qu'on arrive à bien la parler, mais une maîtrise de sa sexualité, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande des efforts, ça demande... Et il y a besoin d'une ascèse, d'un renoncement, voilà. Mais le but est positif au bout du compte. C'est important d'avoir ça, parce que faire les choses simplement d'un point de vue négatif, ce n'est pas très motivant, mais de voir que petit à petit, voilà, ben, avec une meilleure maîtrise de soi-même, ben, la sexualité contribuera davantage à faire grandir l'amour des conjoints. Alors, à ce moment-là, ça change tout. On saute pas mal de choses. Parce que... Dans les numéros 150... À 152, il parle de la dimension érotique de l'amour. Alors, il dit justement, c'est une chose qui se conquiert. Puisque tout être humain, avec persévérance et cohérence, apprend quelle est la signification du corps. La sexualité n'est pas un moyen de satisfaction ni de divertissement, puisqu'elle est un langage interpersonnel où l'autre est pris au sérieux avec sa valeur sacrée et inviolable. La sexualité, Jean-Paul II en parlait beaucoup comme d'un langage hein, pour exprimer l'amour. Mais du coup, ça suppose quand même d'apprendre cette langue, on pourrait dire. Et dans les paragraphes suivants, il parle de la violence et de la manipulation. En voyant les pathologies. Souvent, la sexualité est dépersonnalisée. Elle est également affectée par de nombreuses pathologies, de sorte qu'elle devient toujours davantage occasion et instrument d'affirmation du moi et de satisfaction égoïste des désirs et des instincts. Les actes propres à l'union sexuelle des conjoints répondent à la nature de la sexualité voulue par Dieu s'ils sont vécus d'une manière vraiment humaine. du coup, voilà, ça suppose une certaine maîtrise de soi. Mais encore une fois, la sexualité est bonne en tant que telle. Une citation du catéchisme, par exemple. Les actes qui réalisent l'union intime et chaste des époux sont des actes honnêtes et dignes. Vécus d'une manière vraiment humaine, ils signifient et favorisent le don réciproque par lequel les époux s'enrichissent tous les deux dans la joie et la reconnaissance. La sexualité est source de joie et de plaisir. Et il cite Pie XII, le Créateur lui-même a établi que dans cette fonction de génération, les époux éprouvent un plaisir et une satisfaction du corps et de l'esprit. Donc les époux ne font rien de mal en recherchant ce plaisir et en jouissant. Ils acceptent ce que le Créateur leur a destiné. Dans les numéros 155 à 157, je m'arrêterai avec ça, le pape François continue sur justement les travers qui peuvent affecter la sexualité. Alors là, peut-être que je peux dire quelques mots sur la tendresse. Alors voilà ce que dit déjà le pape François. Au numéro 157, rappelons qu'un véritable amour sait aussi recevoir de l'autre, qu'il est capable de s'accepter comme vulnérable et ayant des besoins, qu'il ne renonce pas à accueillir avec sincérité et joyeuse gratitude les expressions corporelles de l'amour à travers la caresse, l'étreinte, le baiser et l'union sexuelle. Et du coup, c'est important de remettre en valeur la tendresse, qui est le contraire de l'agressivité, qui est vraiment importante dans le domaine de la sexualité. Quand il n'y a pas de tendresse, du coup, ça devient quelque chose d'un peu violent. Alors, la tendresse passe par des gestes de tendresse, mais aussi par des mots doux, des mots tendres. Ah tiens, j'ai une petite... un petit souvenir qui me revient à l'esprit. Un jour, il y a des gens qui viennent pour que je célèbre leurs noces d'or. Et puis, il y avait deux couples ensemble. Je discute avec eux et je m'aperçois qu'il y a un des couples qui n'était pas marié à l'église. Alors, j'en dis, avant de célébrer les noces d'or, on va célébrer le mariage, si vous voulez bien. Donc, je les ai préparés au mariage. Alors, effectivement, ce n'était plus la même chose que la préparation des jeunes au mariage. Et puis, donc, on a célébré, c'était dans l'intimité, c'était à l'oratoire, là-haut. Et pendant le mariage, à un moment, ils se disaient des mots doux. Mais comme avec l'âge, on a l'oreille un peu plus dure, tout le monde entendait les mots doux. Mais c'était très mignon. Voilà, alors ça fait partie de la tendresse, les mots doux, les mots tendres, les mots d'estime, les mots de pardon.